par les champs et par les graines.
Des histoires, des rencontres, des débats qui nous parlent des liens entre terre et mer, pour découvrir, pour mieux comprendre les multiples visages de l'agriculture littorale. Aujourd'hui, c'était la patate, épisode 2, l'âge d'or.
Leçon de choses. Montrer l'analogie qui existe entre le doryphore et les insectes de la même famille, hanneton, coccinelle, connus de tous les élèves. À l'aide de tracts, de planches coloriées et de cartes postales, faire voir les œufs de couleur rouge-orange, pondus par groupe et généralement à la face inférieure des feuilles. Demander à la mairie s'il en existe un, le tube où sont conservés dans l'alcool, l'insecte et sa larve, et le faire passer entre les mains de tous les élèves. Dessin. Faire reproduire aux enfants, qui s'aideront pour cela de cartes postales, planches coloriées et tracts du ministre de l'Agriculture. Un insecte parfait, sa larve et les dégâts causés par le doryphore sur les feuillages de la pomme de terre.
Dans le premier épisode de cette grande saga, nous sommes partis sur les traces de la culture de la pomme de terre de sélection dans l'ouest du Finistère. Cette culture savante et fragile y a été introduite en 1922 et elle s'est ensuite développée rapidement. Nous avons été accompagnés dans cette histoire par Pierre Graal, historien à Châtelain, et par Hervé Lelgouache, petit-fils d'un pionnier de la culture du plant de pomme de terre. Nous voici dans les années 30, une petite révolution agricole est en cours, avec l'adoption de cette culture qui rapporte. Écoutons Pierre Graal, notre historien de la patate, nous parler des premiers signes de cette prospérité naissante.
Et au départ, on a lancé simplement une variété et une seule, qui était l'Institut de Beauvais. Et on peut dire que cette variété est restée la seule en place jusqu'à la guerre, pratiquement. Disons que c'était une belle pomme de terre, à chair jaune. Elle avait été mise sur pied dans l'Institut de Beauvais, qui existe toujours. On donnait aux producteurs le nom de Beauvais.
On disait un Beauvais ?
Oui, éventuellement, oui. Et donc... On donnait également le nom de Beauvais, d'ailleurs, à leur costume très chic au moment de la messe du dimanche.
C'était des Beauvais.
Voilà. Et aussi, on donnait le même nom à leur voiture, qui était souvent des tractions avant Citroën, là, les 11, 15 chevaux Citroën. Et donc, à partir de 46, là, dans les années 50, on va voir se développer des germoires un peu partout dans la campagne. Il y a en particulier celui de Kerléo à la sortie de Castes, en bordure de la route de Ploémin, qui comporte des bandes de schiste et de granit alternées, et qui est dans la ligne, on peut dire, de la façade de la ferme, qui elle-même est magnifique.
C'est la première ferme électrifiée.
Hervé Lelgouache.
Lorsqu'il construit le germoir, il est très attentif à garder l'esthétique du corps de ferme, c'est-à-dire les strates de schiste et de granit. Eh bien, c'est exactement le bonhomme. Sa voiture, il va l'acheter à Paris, quand même. Il lui fallait toujours le maximum. Non, mais dans une esthétique étonnante, quoi. Donc, il s'achetait son salon, il s'achetait ses chambres. C'est même pas ma grand-mère qui y allait. Ils allaient peut-être ensemble, enfin, c'est lui qui décidait de tout. Enfin, c'est quand même dingue.
Je suis né dans une ferme à Saint-Anne.
Thomas Mao, au bar de la Forge à Plonévé-Porzay.
Vous avez 88, c'est ça que vous avez
dit? Là, on tombe dans les patates.
Et alors voilà, alors la pomme de terre dans le Porzay, il paraît que c'était une sacrée affaire.
Oh là là, ça a été important. Hein. Dans toutes les fermes, petites et grandes, on mettait des pommes de terre, mais en sélection.
Donc du plan?
Du plan. Ah oui, oui. Oh là là, à l'époque c'était ça, la pomme de terre, et puis des vaches laitières, c'était à peu près ça, hein. Dans les fermes de 15 hectares, là, à peu près, après on nourrissait deux cochons pour la famille, pour, hein. C'était comme ça, je vous parle des années après 1950, quoi. 50, 60, ça a fait une fortune pour beaucoup de monde, ça.
Et chez vous, ça a fait une fortune à la fin?
Oh, pauvre. Bah, oui, mais...
C'est l'or. Il est l'or. L'or de se réveiller.
Donc avec une récolte de pommes de terre, on pouvait construire une maison, récolte sur un an.
Tous les ans, on pouvait construire une maison.
Pratiquement, ouais, c'était... les prix étaient très, très élevés. Disons, au début des années 50, un sac représentait 1250 francs. À la même époque, le SMIC était, qui venait juste d'être créé d'ailleurs, était à 78 francs de l'heure, hein, quand même. Faut dire. Et un kilo de pain se vendait 35 francs.
Des années 30 aux années 60, un ensemble d'institutions et d'innovations techniques vont faire de l'ouest du Finistère une plaque tournante de la commercialisation des plants de pommes de terre. 10% de la production française passe ainsi par la gare de Châteaulin. Cette mutation touche une grande partie du monde paysan, petits et grands, dans leur travail, leurs ressources, mais aussi leur mode de vie. De Trégarvan à Plouhinec, d'Irvillac à Lénon, les tubercules coulent à flot. C'est une économie entière qui se structure, avec les producteurs de plus en plus nombreux, leurs syndicats et coopératives, les négociants. On dirait aujourd'hui un écosystème patate qui profite à tous, mais qui n'épargne personne.
Si on fait la moyenne, à partir de là, que les paysans cultivent à peu près un peu plus d'un hectare. Un hectare, deux... Oui. Disons qu'au maximum, c'est 3 hectares. Bon, ça s'explique par le fait qu'il faut beaucoup de travail. Pour faire un hectare de céréales, il fallait compter à l'époque 150 heures. Et pour un hectare de pommes de terre, 800 heures. Entre toutes les différentes opérations à mener, depuis le labourage, la première, jusqu'à la récolte. Puis ensuite, le triage,
des
plants.
La mise en sac.
La mise en sac, oui. Les sacs de 51 kilos.
Donc il y a deux moments forts.
Fort,
il y a
oui. Besoin de... Mais il fallait également donc une main-d'œuvre relativement importante pour le triage, puisque tout se faisait à la main à l'époque. Hein. C'était en 3 catégories, donc les petites, les moyennes et les grosses. C'était assez simple de ce point de vue-là. C'était en fonction du diamètre.
Mon histoire de la patate, c'est...
Bernard Carouédan, éleveur à Plouhinec.
Voire même, ça commençait plus tôt. On finira sur l'hiver après, mais c'est des printemps déjà à planter les pommes de terre. Ou à ranger ici dans le hangar des pommes de terre dans des clayettes, en les empilant les unes sur les autres pour qu'elles germent. Et après, c'est le... C'est la plantation au mois de mai, souvent. Hein, donc, c'est les averses de grêle, parfois, au mois de mai. C'est bon, des vacances de Pâques tardives passées à planter des pommes de terre. Et puis, c'est des vacances d'été interrompues, entre guillemets, à partir du 14 juillet, quoi, où on commençait à arracher les pommes de terre. Et toutes les vacances y passaient.
D'accord. Voilà. Dans la joie.
Toutes les vacances y passaient. Et puis, même après, je me souviens, en septembre, quand j'avais repris l'école... j'arrivais souvent à la maison, mes parents n'étaient pas là, puis ils étaient encore en train d'arracher les pommes de terre, parfois à Plozévette, parce qu'on avait un peu de terrain à Plozévette. Et puis c'était un terrain qui se prêtait bien à la pomme de terre, parce que ma mère étant originaire de Plozévette, il y a un petit hectare qui traîne là-bas. Et donc je rentrais ici vers 5h et je rentrais les vaches, je m'occupais des veaux. Quoi. Mm-hmm. Voilà, j'avais ça à faire.
D'accord.
Parce qu'on était en train d'arracher les pommes de terre.
Okay.
Donc je donnais à boire aux veaux, je faisais une préparation de lait en poudre, je me souviens de faire ça. Et comme ça, quand mes parents rentraient, ils n'avaient pas cette partie-là à faire. Quoi. Et les vaches étaient rentrées prêtes à traire. Voilà. Et après, ça continuait l'hiver, quoi. Dès l'hiver, enfin dès le mois de novembre, je pense qu'ils commençaient à calibrer les patates, à les trier, et fallait bien les vendre, quoi.
Il n'y a pas de patates en fer, il n'y a pas de patates en bois. Ah 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 ah. Il n'y a pas de patates en fer, il n'y a pas de patates en bois. Il y a de la patate en fer et des tas de patates en tas, en haute patate. Et il y a de la patate en fer et des tas de patates en tas.
Il fallait que ces pommes de terre soient contrôlées. D'ailleurs, le syndicat qui a été créé donc en 1926 s'intitulait Propriétaires de semences de pommes de terre sélectionnées sur pied et officiellement contrôlées. Donc, le contrôle a été fait tout simplement par des contrôleurs qui dépendaient du syndicat, qui faisaient les visites dans les champs, qui repéraient les plants malades, qui demandaient aux paysans d'éliminer non seulement le plant malade, mais deux plants devant, deux plants derrière, et ensuite de brûler les fans au chlorate de soude. Donc un contrôleur pouvait mettre hors circuit toute une parcelle hein, s'il y avait à ses yeux un développement trop important de maladie. Et les parcelles étaient classées donc, en fonction de la qualité des plants.
C'était des contrôleurs, je ne sais pas, est-ce qu'ils étaient en retraite? En tous les cas, qui avaient une très grande connaissance donc, de la culture de pommes de terre, de grands professionnels. Ils les invitaient donc, le dimanche à prendre un très bon déjeuner, mais avant, leur demandaient de passer dans ces champs. Ils arrachaient les plants malades, les mettaient sur le côté, pour que les ouvriers de mon grand-père, le lendemain, puissent les enlever. Donc ils faisaient déjà une sélection donc, du champ avant que n'arrivent les contrôleurs officiels. Ce qui fait que ces pommes de terre étaient toujours très bien placées.
Et est-ce que vous en souvenez
des patates?
Oui.
Ah ouais, excuse-moi, je ne suis pas de bonne humeur en plus, hein, parce que je les ramassais en plus, là j'en ai marre. Hein. Mais j'étais branleur, moi, et puis il y avait tous mes copains du bourg qui descendaient à la plage, et moi j'étais comme un con en train de ramasser les patates dans mes merdes. Alors les patates et...
Coopérateur ou commerçant qui me vendez aveuglément, du moins sachez me présenter pour que mon nom soit réputé. La patate, un aliment nutritif et excellent. Mangez-moi, mesdames, messieurs, vous vous porterez mieux.
Et en fait, c'est tout. Bah, c'est vrai, quoi. Allô?
Vous écoutiez C'était la patate, épisode 2, L'âge d'or. Une émission réalisée par Hervé Skividan et Alix Levin, avec par ordre d'apparition Léo Skividan, Pierre Graal, Hervé Lelgouache, Thomas Mao, Bernard Kerouédan, Jean-Claude Asquette. Musique, Cecil Scott and His Bright Boys, le groupe Machin, le Stangvillan Social Club et un extrait de La Folie des Grandeurs de Gérard Houry. Prochain épisode, la transition.
Par les champs et par les grèves, une série documentaire produite par les chercheurs du projet Parole et Chemin de l'agriculture littorale et par Radio Évasion, avec le concours de la coordination des radios locales et associatives de Bretagne et le soutien financier de la Fondation de France, de la région Bretagne et de l'Institut national de la recherche agronomique. À retrouver sur parchemin.bzh, radioévasion.net et plumefm.net.